L'atelier des médias, Ziad Malouf.
Nous parlions récemment avec l'équipe de nos parcours avant de nous lancer dans les études de journalisme ou directement dans le métier de reporter radio en ce qui me concerne. Cela m'a replongé dans une époque au début des années 2000 où je ne savais réellement pas ce que j'allais bien pouvoir faire de ma vie professionnelle. Je me souviens d'un livre que j'ai lu à l'été 2000, exactement au moment où je terminais mes études. Son titre, Chienne de guerre. Il était signé d'une jeune femme dont la photographie figurait en couverture. On la voit portant un foulard ou une casquette, probablement fatiguée, le regard profond en direction de l'objectif. L'image, qui semble sortir d'une époque lointaine, laisse imaginer un caractère bien trempé et une détermination hors du commun. Détermination et caractère que l'on retrouvait au fil de cet ouvrage signé Anne Niva. Chienne de guerre retraçait son parcours de journaliste couvrant le conflit en Tchétchénie pour Libération et Ouest-France durant quelques mois entre 1999 et 2000, un livre pour lequel elle a obtenu le prix Albert Londres. Je ne l'avais jamais formulé de la sorte, mais il est bien possible que cet essai ait contribué à mon intérêt pour le métier que j'exerce aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'il a redoré son blason à mes yeux après des années d'études d'histoire où pour mes professeurs, journalisme était synonyme d'amateurisme. 17 ans plus tard, je suis aux commandes d'une émission qui parle presque chaque semaine du métier de journaliste. Chaque jour, j'apprends de nouvelles choses, rencontre de nouvelles personnes et remercie intérieurement celles et ceux qui m'ont permis d'être là. De même que je remercie mon équipe, grâce à laquelle nous arrivons à mener de front plusieurs projets mêlant les richesses de la radio et les possibles du web et de l'internet. C'est d'ailleurs Marie-Stéphanie Servos et Simon Decreuse qui signent ensemble l'émission de ce jour. Elle est consacrée à Anne Niva, ou plus exactement à la démarche qu'elle a adopté pour le livre-enquête qu'elle vient de consacrer à la France. Son titre, Dans quelle France on vit ? L'histoire commence le 16 novembre 2015, trois jours après les attentats de Paris.
La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de guerre.
La formule choc de notre président m'incitait à regarder la France avec les yeux de la correspondante de guerre que je n'ai jamais cessé d'être.
Il constitue une agression contre notre pays.
Avais-je besoin d'autres raisons pour m'aventurer dans mon propre pays ?
Contre sa jeunesse.
En lui accordant toute mon attention, parviendrais-je à le saisir dans sa complexité avec minutie, honnêteté et en toute subjectivité, la mienne ? Mais la France n'étant pas en guerre comme celle lointaine que je dépeignais d'habitude, par quoi commencer ? Comment procéder ? Comment tirer le fil sans ligne de front ? Qui me conduirait et où aller ?
Eh bien, oui, après les attentats du Bataclan, donc c'était la deuxième fois quand même dans l'année 2015 que la France était endeuillée par des attentats, puisqu'on en avait eu droit au début de l'année en janvier. Le président Hollande réunit le Congrès à Versailles, ce qui se fait quand même hyper rarement, donc le moment était très solennel. Et il commence son discours en disant :
La France est en guerre.
La France est en guerre. Et moi, la France est en guerre m'a évidemment beaucoup frappé. Alors je dirais pas qu'il m'a choqué, parce que j'ai vu tellement de choses dans ma vie, justement dans des guerres, qu'il n'y a plus grand chose qui me choque. Mais il m'a interpellé parce que pour moi, la France n'est pas en guerre, n'était pas en guerre et n'est toujours pas en guerre de la même façon que les pays en guerre où j'ai l'habitude d'exercer mon métier. Alors quels sont ces pays ? Ça fait longtemps que je fais ce métier et ça fait longtemps que je suis reporter de guerre. Donc moi, j'ai commencé par la guerre en Tchétchénie. La Tchétchénie, c'est une toute petite partie de la Russie. Ça, c'était en 1999 que ça avait commencé, cette petite région de Russie qui essayait de prendre son indépendance. Bref, c'est toujours pas fini aujourd'hui. Ensuite, la guerre en Afghanistan, suite au 11 septembre 2001, que j'ai couverte. Et puis ensuite, la guerre en Irak à partir de 2003. Aucune de ces trois guerres aujourd'hui n'est terminée. Et sur ces guerres, j'ai écrit des centaines et des centaines et des centaines de pages. Et j'y suis allée des centaines de fois sur ces trois terrains. Donc, quand j'ai entendu le président Hollande dire cela, je me suis dit, ah, c'est peut-être le moment que j'ose écrire un livre sur mon propre pays, qui, certes, n'est pas en guerre, mais dans lequel, quand même, Je sens qu'il y a des malaises, qu'il y a des angoisses, qu'il y a du déni sur des tas de sujets. Et en fait, ça, je le sentais depuis quelques temps, quelques années, justement en rentrant de mes terrains de guerre. Parce que je vais longtemps sur les terrains. Et quand je rentre où ? Je rentre ici, en France, à Paris et dans le sud de la France, où je rejoins ma famille, où j'essaye de vivre normalement après tout ce que j'ai vécu. Et ces allers-retours, si vous voulez, entre des pays en guerre et mon pays qui n'est pas en guerre, m'ont fait comprendre, ont rendu visibles des choses que je n'avais peut-être pas vues avant sur ces angoisses des Français. Et je me suis dit, et si j'osais enfin écrire un livre sur la France, même si elle n'est pas en guerre ? Dans les pays en guerre, c'est la guerre qui mène la danse, j'allais dire. C'est la guerre qui écrit l'histoire. Et moi, je suis une toute petite journaliste sur les terrains de guerre qui essaye de tirer le fil de cette histoire de la guerre. Je dirais que grâce à la guerre, ma méthode journalistique, elle est là, elle est évidente. Elle est celle du terrain et le terrain me domine. Je vais là où la guerre me mène. Mais en France, où il n'y a pas de guerre, comment je fais ? Effectivement, c'était une grande question. C'était une des questions que je me suis posée avant d'oser entreprendre ce livre. Mais je me suis dit, finalement, ce qui compte, c'est le terrain. Donc je vais faire en France, comme je fais dans mes pays en guerre, dans le sens où je vais choisir des endroits, des lieux, des terrains, qui sont pas forcément des terrains où tout le monde va, et dans lesquels je vais m'attarder, rester, vivre en immersion. Et puis je vais bien voir ce qui s'y passe, qui je rencontre. Et si j'arrive à sortir une histoire de tout cela, ou des histoires, et un fil rouge. Mais comme la France n'est pas en guerre, il fallait effectivement que je choisisse d'abord des villes, et puis des thèmes. Alors, les villes, je les ai choisies, en fait, à contrario. C'est-à-dire, je savais ce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas des grandes villes. Je ne voulais pas Paris, Lyon, Marseille et leurs banlieues, c'est-à-dire les villes dont on parle tout le temps, sur lesquelles j'ai l'impression qu'on a déjà beaucoup écrit, beaucoup lu, beaucoup entendu ou vu de reportages, qui ont été bien faits ou mal faits, ça n'est pas à moi de juger, mais en tout cas, je savais que je voulais aller ailleurs, dans cette autre France, cette France. Alors, beaucoup la nomment, disent la France périphérique, comme le géographe Christophe Guillouy, dont j'ai lu les essais, qui me semblent très intéressants. On dit aussi, on entend dire la France d'en bas, la vraie France, entre guillemets. Alors moi, je ne sais pas comment l'appeler, mais c'est la France des villes moyennes.
RFI.
J'ai choisi sur deux critères, mais quand même en toute subjectivité, c'est une subjectivité que je revendique. Parce que je ne crois pas à l'objectivité en journalisme. Moi, je ne suis pas un sondeur de l'IFOP. Donc, j'ai choisi mes villes selon deux critères que je vais vous dire maintenant, mais quand même en toute subjectivité, parce que j'aurais pu en choisir d'autres selon ces deux critères. Les deux critères sont des critères de nombre d'habitants. Donc, je voulais que ce soit des villes de moins de 50 000 habitants, donc vraiment la ville moyenne, comme il en existe beaucoup en France. Et deuxième critère, des villes qui n'ont pas été l'objet d'une couverture médiatique, justement, quelconque. Alors j'ai une exception dans mes six villes, qui est la ville d'Ajaccio, puisqu'elle fait 66 000 habitants, et que en fait la Corse est toujours plus ou moins un sujet médiatique, parce que la Corse est une île très touristique, et puis aussi parce qu'il y a eu beaucoup de terrorisme en Corse. Donc je voulais, de façon totalement subjective, qu'il y ait une ville corse dans mes six villes françaises, pour justement parler de la Corse d'une autre façon. Parce que ce que j'aime aussi faire, mais je pense que j'y reviendrai dans notre interview, c'est briser les stéréotypes.
Les trois Tchétchènes m'invitent dans leur foyer. Deux d'entre eux résident au quartier de la Madeleine depuis 5 ans, avec femme et enfants. Les parties communes ne sont pas rutilantes, mais dès qu'on pénètre dans l'appartement, la propreté saute aux yeux. Je tiens à préciser cela à tous ceux persuadés que, parce que l'on vit dans une zone urbaine sensible, on est pauvre, donc sale. Mon expérience, et notamment ici à Évreux, m'a plutôt prouvé l'inverse. Durant les deux premières nuits, j'ai séjourné chez un intellectuel aisé, pénétré d'idées stéréotypées sur la population musulmane des quartiers alors que lui-même vivait dans un intérieur crasseux, inconscient de l'état déplorable de son propre appartement. Je m'en suis échappée au plus vite.
Alors mes villes sont Évreux, Laon, Laval, Montluçon, Lons-le-Saunier et Ajaccio. Et même si j'ai 6 villes, je n'ai que 5 thèmes, parce qu'il y a un thème que j'ai illustré dans 2 villes, tellement ce thème est important. Alors, comment j'ai choisi mes thèmes? Là aussi, en toute subjectivité, c'est-à-dire j'ai simplement réfléchi à quelles étaient les préoccupations premières des Français. Et finalement, plus largement, on pourrait dire les préoccupations principales de tous les pays modernes d'Europe occidentale, de tous ceux qui sont en crise aujourd'hui, et de l'Amérique. Le thème premier, c'est l'emploi. Je ne pense pas que quiconque puisse me contredire sur cette affirmation. Quand on a un emploi, on a peur de le perdre. Et quand on n'en a pas, eh ben, on en cherche un. On ne sait pas comment en trouver un. Donc des deux côtés, de toute façon, dans quelque situation que l'on soit, on n'est pas très à l'aise aujourd'hui, en 2017, en France et en Europe. Donc l'emploi, ces deux villes. À Montluçon, je le traite sous l'angle du demandeur d'emploi et à Laval, je le traite sous l'angle de l'employeur et même du chef d'entreprise. Laval est une ville d'un département français qui s'appelle la Mayenne, est une ville dans laquelle il y a un taux de chômage fort bas, fort peu élevé, contrairement à Montluçon, qui est dans l'Allier et qui est une ville dans laquelle un ancien bassin industriel très prospère, mais qui évidemment au vu de la globalisation, de la mondialisation, etc., qui s'est beaucoup remis en question et dans lequel aujourd'hui il y a un fort taux de chômage. Donc voilà, je voulais mettre ces villes, ces deux villes, disons, l'une en face de l'autre.
Ils sont là, debout, pochette ou porte-documents sous le bras, dossiers contre la poitrine, en rang serré, tant ils sont nombreux, presque une centaine. En ce jeudi froid et brumeux d'automne, tous ceux qui cherchent un travail à Montluçon et dans les alentours sont venus. La foule attend l'ouverture du forum de l'emploi et de la formation organisée dans le cadre de la semaine de l'emploi et de la formation au centre Atanor.
Alors mes autres thèmes sont le sentiment de déclassement, le sentiment d'insécurité, le malaise des jeunes, et par jeunes j'entends vraiment jeune, 18-25 ans. Et enfin, les problèmes d'identité que j'ai traités à Ajaccio. Le sentiment d'insécurité, je l'ai traité à Lons-le-Saunier, qui est une petite ville du Jura, où il n'y a même pas 20 000 habitants, où les statistiques d'insécurité sont basses. Et c'est justement parce que c'est une petite ville dans laquelle il n'y a objectivement pas d'insécurité, une criminalité très basse, que j'ai voulu m'installer là pour traiter le sentiment d'insécurité. Parce que ce sentiment, il est subjectif. Et il est dans toutes les villes de France. Et ce que je voulais montrer, c'est que justement, ça ne dépend pas des statistiques. Le sentiment de déclassement, je le traite à Laon. Et à Laon, c'est pareil. Ça n'est pas le déclassement en tant que tel que je traite, mais le sentiment de déclassement. C'est-à-dire le sentiment qu'ont les habitants de cette ville de ne pas être au centre, d'être les oubliés, d'être ceux à qui on ne fait pas attention, d'être ceux qui ont raté le passage à la globalisation, d'être la périphérie. Et à Évreux, je traite du malaise des jeunes. Voilà mes 6 villes et mes 5 thèmes.
Depuis les événements de Charlie Hebdo, le jeune homme qui s'exprime mieux en français qu'en arabe et dont les parents se disent intégrés, a l'impression qu'on voudrait lui faire oublier ses racines. Et ce racisme ambiant le blesse. Ces trottoirs sur lesquels on marche, c'est sûrement mon père et ses potes qui les ont posés.
Alors, on dit aujourd'hui l'immersion, et beaucoup de journalistes nomment ce que j'ai fait de l'immersion. Parce qu'il faut peut-être bien trouver un mot, moi je veux bien. C'est pas vraiment qu'il me dérange ce mot, mais c'est qu'il est devenu très passe-partout. Moi, j'ai fait quelque chose qui est tout à fait simple et classique, et que je n'ai absolument pas inventé, que bien d'autres ont fait avant moi, mais que peut-être aujourd'hui on fait un petit peu moins, fabriquer tout simplement du terrain. Moi, je suis une puriste du terrain. Pour moi, il n'y a que le terrain qui compte. Alors, je ne suis pas là en train de dire qu'il n'y a que le journalisme de terrain qui devrait s'appeler du journalisme. Il y a chaque journaliste, finalement, je trouve, et c'est en cela la beauté aussi de ce métier, même si c'est un métier compliqué et très décrié, mais chaque journaliste a sa façon de pratiquer son journalisme. Moi, la mienne, et c'est depuis toujours, c'est le terrain. Ça veut dire que je dois me rendre sur place pour pouvoir avoir quelque chose à écrire. Et me rendre sur place, pas 5 minutes, ni 10 minutes, ni une semaine. Pas en tendant un micro et en libellant ma question d'une façon telle qu'elle induit déjà sa réponse. Mais avec... Bon, moi, je suis une journaliste de presse écrite, même si je fais maintenant de la radio, de la télé, etc. Mais au départ, je suis et je reste une journaliste de presse écrite. Donc, je prends des notes. Je prends des notes de tout. Même quand je suis en train de tourner un film, je prends des notes. Parce que c'est la façon que je préfère pour travailler. Parce que pendant que je prends des notes, j'écoute ce que me dit mon interlocuteur. Évidemment, je le prends en note. Mais je prends aussi en note des tas de choses. À quoi il ressemble, je le décris. Qui est à côté de lui, dans quel contexte nous sommes, tout compte. Et ça, je le fais depuis toujours. Donc, dans ces villes, j'ai fait la même chose que sur mes terrains de guerre. Je suis restée sur le terrain longtemps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire longtemps pour ce livre en France ? Ça veut dire 3 semaines dans chaque ville. Alors, c'est pas très longtemps. J'aurais pu rester plus longtemps. Mais j'avais quand même un livre à écrire. Et 6 villes, donc j'ai mis 2 ans quand même pour faire ce livre. C'est déjà assez long. Mais si j'avais eu plus de temps, je serais restée encore plus longtemps sur chaque terrain, c'est-à-dire dans chaque ville. Parce que, après 3 semaines, j'avais pas tout compris de ces villes, loin de là. Et je n'ai aucune prétention à les avoir saisies dans leur globalité. Vous voyez, je ne me substitue pas, par exemple, à la presse quotidienne régionale. Je ne travaille pas non plus pour l'office du tourisme de chaque ville. Donc, moi, j'ai tiré un fil, le fil invisible qui est celui de mon instinct. Je suis quelqu'un de très instinctif et ça m'a sauvé plus d'une fois sur mes terrains de guerre, de mon bon sens, des rencontres que je fais, mais en lien avec mon thème, bien sûr. C'est mon thème qui domine mon terrain. Mais si ensuite, par exemple, si j'ai à Évreux, prenons l'exemple d'Évreux, j'ai traité du malaise des jeunes, mais si en arrivant sur le terrain à Évreux, je n'étais pas parvenu à trouver des jeunes de 18-25 ans qui me parlent de façon riche, claire, et que je puisse rapporter dans un livre de leur malaise, si je n'avais pas découvert ces jeunes, s'ils n'existaient pas dans la ville d'Évreux, si je ne les avais pas trouvés, j'aurais changé de thème, bien sûr. Et de la même façon à Ajaccio avec les problèmes d'identité. Et je voudrais ajouter aussi que tous mes thèmes sont interchangeables. C'est-à-dire, j'aurais pu traiter du malaise des jeunes à Ajaccio, et des problèmes d'identité à Évreux. J'aurais pu traiter du déclassement à Lons-le-Saunier et pas de l'insécurité et vice-versa. Tout est interchangeable. Ce sont simplement des grands thèmes, des grandes angoisses qu'on retrouve en fait partout. Et moi, mon seul problème, si je puis dire, c'était de trouver des interlocuteurs. Parce que c'est ça le terrain. Moi, je ne suis pas romancière. Si j'étais romancière, je resterais chez moi. J'aurais pas besoin d'aller à Évreux, Laval et dans toutes les autres villes. J'inventerai mes personnages, j'inventerai mes citations. Moi, je suis collé au réel. Et c'est ça, le reporter. Et c'est ça, le reportage. Alors, en français, on dit grand reporter. Je sais pas pourquoi. Parce que pour moi, il n'y a pas de grand ni de petit reportage. Pour moi, le reportage, ça commence en bas de chez soi. Alors, moi, je l'ai toujours fait loin de chez moi. Parce que j'ai commencé avec la guerre en Tchétchénie. Mais c'est un hasard, finalement. Je n'ai pas cherché cela. Je suis devenue reporter de guerre et ensuite, je n'ai plus cessé de l'être. Parce qu'aucune des guerres, comme je vous l'ai dit au début de notre conversation, que j'ai couverte, n'est terminée. Mais en fait, en faisant ce reportage en France, je montre tout simplement que le reportage, c'est partout. Ça commence en bas de chez soi, avec simplement de la curiosité. Parce que je vous rappelle que c'est quand même ça, la qualité première du journaliste. Être curieux, curieux dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ouvert, et ouvert à tout et à toutes celles et ceux qui se présentent à vous pour parler. Et il faut être prêt à tout entendre quand on est reporter.
Fin de la première partie, restez avec nous.
L'atelier des médias, Ziad Malouf.
Atelier des médias, nous sommes cette semaine avec Anne Niva, journaliste et prix Albert Londres. Celle qui se présente comme reporter de guerre, spécialiste de la Tchétchénie et de l'Irak, a choisi pour son dernier livre un terrain probablement tourmenté mais bien pacifique malgré tout. Pendant plusieurs mois, elle a vécu dans la France des villes moyennes pour explorer cinq thèmes. Le sentiment de déclassement, le chômage, l'identité, le malaise des 18-25 ans et le sentiment d'insécurité. Son livre « Dans quelle France on vit » raconte le quotidien, le parcours de femmes et d'hommes qui ont croisé sa route durant cette enquête. Marie-Stéphanie Servos de l'Atelier des médias a souhaité en savoir plus sur la démarche d'Anne Niva, une émission signée Simon de Creuse.
On ne s'attarde nulle part, on ne voit pas ce qui est difficile à regarder. Voyager vite et confortable, et c'est le désir d'une majorité. Ne pas perdre une seconde, se convaincre que remplir son temps équivaut à une efficacité maximale. Surtout, ne pas se retrouver face à soi-même, ne serait-ce qu'un instant. Qui ose encore relever la tête et observer son semblable ?
Avant de commencer à parler avec mes interlocuteurs, je leur explique mon projet. Moi, je suis quelqu'un de transparent, je suis convaincante aussi, je suis claire dans ce que je raconte. Et puis en plus, ils n'ont qu'à mettre mon nom sur Google et ils auront la preuve que tout ce que je leur ai raconté sur moi et sur ma façon de faire mon métier est réel. Google, c'est en gros ma carte de visite. Donc ils peuvent aller voir. Bon, il y a le pire et le meilleur sur Internet, mais il y a aussi beaucoup d'infos sur qui je suis en tant que reporter. Et donc, ils peuvent se rendre compte par eux-mêmes que j'ai été en Irak, en Tchétchénie, au Pakistan, en Afghanistan, en Syrie, etc. Que j'ai écrit beaucoup de livres, que tous ces livres existent, que tous ces reportages existent. Et donc, ils comprennent ce que je veux faire en France. Alors, bien sûr, il y a toujours quelques personnes qui ne comprennent pas. Mais tant pis, elles ne sont pas dans le livre, c'est pas grave. Donc la plupart a été content. Évidemment, j'ai eu droit aussi à ce discours critique vis-à-vis des médias, vis-à-vis des journalistes en disant oui, de méfiance vis-à-vis des journalistes que nous sommes, en disant mais on n'y croit plus à vous. Il y a une décrédibilisation totale du journalisme aujourd'hui, des médias, en même temps qu'il y a, je dirais, une consommation, entre guillemets, des médias qui est extrême, qui est énorme. De la même façon qu'il y a une délégitimation totale du politique et des politiques, alors que tout le monde est passionné par exemple, cette campagne électorale qui se déroule en France aujourd'hui. Mais, donc j'avais droit à ces critiques, et en même temps, le fait que j'étais devant cette personne qui était en train de critiquer les médias, et que moi j'étais devant elle en train de lui expliquer mon projet clair, précis, etc., déconstruisait en fait un petit peu complètement cette critique. Donc j'ai même eu l'impression plusieurs fois, d'ailleurs j'ai plusieurs personnes qui me l'ont dit, que j'étais en train de défendre la cause des journalistes, quoi, finalement de redorer le blason journalistique aux yeux de beaucoup de personnes, et tant mieux si j'ai pu le faire à mon niveau, tant mieux. Et je crois que c'est un travail qu'il faut faire. Il faut arriver devant nos interlocuteurs, nous journalistes, parce que nous n'existons pas sans nos interlocuteurs. Il faut arriver devant nos interlocuteurs humbles, respectueux et pleins de considération pour celui dont on recueille la parole. Et peut-être trop souvent, ça n'a pas été le cas. Moi, j'ai entendu au Pakistan, en Irak, des djihadistes, des tueurs qui avaient combattu l'armée américaine et autres, qui me tenaient des propos extrêmement violents, des propos anti-occidentaux, des propos contre la femme occidentale que je suis quand je suis en train de les interviewer sur le terrain. Mais est-ce une raison pour les empêcher de parler et pour me boucher le nez et les oreilles parce que ce qu'ils me disent n'est pas bon à entendre? Non, il faut entendre tout le monde, et c'est ce que je fais dans ce livre en France.
Tu dis la douleur aujourd'hui, la mort, la maladie, le corps et la mémoire, l'abandon et l'espoir. C'est dans la tête tout ça, c'est dans la tête. se plaît, on sait plus. C'est dans la tête tout ça, c'est dans la tête. Seulement, parfois dans ma tête, tu vois, il n'y a que de l'eau. Une poignée d'eau salée, une poignée d'eau rouillée.
En arrivant à Évreux, j'avais loué une voiture à côté de la gare et fait la connaissance de Charlie, un employé. Serviable, extrêmement efficace, je sens pourtant que quelque chose ne va pas. Il semble perturbé et bientôt s'en ouvre à moi quand je lui apprends que j'enquête pour un livre. Charlie a obtenu son brevet des collèges à Évreux, puis un BEP de pâtissier, a travaillé à Intermarché avant de se rendre en Chine, rejoindre deux copains expatriés. Il y a bossé au noir pour une boulangerie française et, en rentrant, a accumulé les CDD comme surveillant de nuit dans une structure pour handicapés mentaux, éducateur, puis responsable du rayon multimédia dans une librairie du centre-ville où il reconnaît commencer tout juste à s'épanouir quand celle-ci est mise en liquidation.
Tu dis que l'inquiétude, la peur, la solitude, le tourbillon, la poisse, les frissons de l'angoisse. Tu dis tout ça, c'est dans la tête, c'est dans la tête, tu crois?
Bon, d'abord, je tiens à dire que je n'ai que 6 villes et donc j'ai dormi chez 6 personnes. Et les gens chez qui j'ai dormi ne sont pas forcément ceux qui ont été mes interlocuteurs et ne sont pas forcément dans le livre. Mais pourquoi j'ai dormi chez eux? J'ai dormi chez eux parce que c'est ce que je sais faire. C'est-à-dire que dans la guerre, il n'y a plus d'hôtels, il n'y a plus d'infrastructures. Les sociétés dans lesquelles j'ai l'habitude d'évoluer en tant que reporter de guerre sont brisées, sont cassées, au sens propre comme au sens figuré. Et donc je suis habituée à ça, à avoir de la promiscuité avec les gens, puisque les gens sont ma matière, puisque je suis reporter. En France, évidemment, je pouvais aller à l'hôtel. Bien sûr, il y a des hôtels dans toutes ces villes de France. Mais si j'étais allée à l'hôtel, je me serais coupée de mon objet d'étude. Moi, je ne suis pas reporter de 9h du matin jusqu'à 17h30. Le soir, quand je suis chez les gens, chez cette femme à Lens ou ce monsieur à Lons-le-Saunier, etc., je parle encore avec eux de leur ville. Je n'ai pas une seconde d'arrêt, en fait. C'est nuit et jour, c'est tout le temps. Effectivement, c'est une immersion totale. Alors, comment je les trouve? Eh bien, comme dans mes pays en guerre, il y a un travail en amont, qui est un travail théorique. Pour mes terrains de guerre, souvent, je déroule des cartes. Moi, j'aime beaucoup les cartes géographiques. Donc, je déroule les cartes, je les regarde, je les analyse. Je me dis, je me fais mon voyage virtuel, mon voyage idéal. Et évidemment, ensuite, quand je suis sur le terrain, confronté à la réalité, c'est souvent différent. Mais c'est ça aussi le reportage. Puis c'est ça la vie. C'est que la réalité n'est pas forcément ce à quoi on s'attend. Je pense que la flexibilité, la façon de s'adapter, l'adaptabilité du journaliste, reporter, est une qualité. Que si on ne l'a pas, c'est, je crois, plus difficile de faire du reportage, peut-être même plus risqué. Donc, il y a cela. Alors, j'ai déroulé des cartes pour la France, des cartes de ces villes, pour regarder les quartiers. Par exemple, Ajaccio, je me souviens, le quartier des Jardins de l'Empereur, est un quartier que j'ai découvert en regardant la carte. J'ai beaucoup aimé l'appellation de ce quartier. Je me suis dit, tiens, les Jardins de l'Empereur, c'est magnifique comme dénomination. Puis j'ai vu qu'il était sur les hauteurs de la baie d'Ajaccio. Donc je me suis dit, tiens, en même temps, c'est un quartier dans lequel il y a beaucoup d'immigrés. Et c'est un quartier pauvre. Et en même temps, c'est un quartier dans lequel il doit y avoir une magnifique vue sur la baie d'Ajaccio. Donc je me suis dit, c'est intéressant. Tout le monde m'a dit, pourquoi tu vas dans ce quartier? Il ne se passe jamais rien dans ce quartier. Je suis allée dans ce quartier, c'est celui dans lequel il y a eu le plus d'événements pendant que j'y étais. Donc vous voyez, ça c'est les coïncidences du reporter. Donc ensuite, j'ai travaillé aussi en théorie et en amont, donc avant le terrain, sur quelles pourraient être mes sources en liaison avec mes thèmes. Par exemple, des associations, si je travaillais dans tel ou tel quartier, voir si je pouvais aller à Pôle emploi pour Montluçon, puisque là, c'est là que je traitais le côté demandeur d'emploi. Et puis on trouve ou on trouve pas. Et ensuite on passe des coups de fil, on dit je vais venir à telle époque, qu'est-ce que vous pouvez me recevoir, etc. Et il y a des gens avec qui le courant passe pas, ils sont pas forcément dans le livre, parce que la conversation avec eux, l'interview n'a pas été aussi riche que je ne l'aurais pensé. Et puis il y a ceux qui m'amènent vers d'autres personnes, je tire un fil. C'est souvent tirer un fil quand on est sur le terrain. Donc c'est extrêmement dense. Le terrain. Et moi, je reviens épuisé de mes terrains. Totalement épuisé. Le terrain me suce mon sang, j'allais dire. Me suce mon énergie. Parce que j'en donne beaucoup. Et d'ailleurs, les gens qui sont mes interlocuteurs sur le terrain, tous les terrains de guerre et dans mes villes françaises, m'ont toujours dit, mais tu as une énergie incroyable et une capacité d'écoute aussi. Parce que si je n'écoutais pas autant et aussi longtemps ceux qui me parlent, eh bien, je ne reviendrai pas avec des choses à dire et que je peux écrire ensuite dans mon livre. Et puis, il y a aussi... je sens quand je tiens des bons personnages, quand les gens qui sont mes différents interlocuteurs dans une même ville et qui ne se connaissent pas, parfois, je parle des uns aux autres... Et ils me disent, ah bon, mais je ne connaissais même pas l'existence d'un tel ou d'une telle, je ne savais même pas que ça existait dans notre ville. Et là, je trouve ça formidable. Là, je me sens, à mon avis, ce qui est la quintessence, le cœur même de ce métier tel que je le conçois, qui est le reporter comme un intermédiaire, un pur intermédiaire. Ni plus, mais ni moins qu'un intermédiaire. Être à sa place d'intermédiaire, ne pas juger. Ne jamais juger. Qui suis-je pour juger ce que me disent mes interlocuteurs ? Moi, je suis là pour recueillir leurs témoignages. Évidemment, en induisant des sujets dans ma conversation. Évidemment, je ne perds jamais le fil de mon histoire. Mais si, dans nos discussions, les gens font des digressions qui me semblent intéressantes, et souvent elles le sont, eh bien, elles sont dans mon livre. Et c'est ce qui crée l'étoffe de mes personnages. Mais mes personnages sont des personnes vivantes. Et là, pour ce livre sur la France, ce qui est extraordinaire, c'est que, en plus, elles sont en poste, elles ont un métier. Le facteur que j'ai rencontré à Lens, et qui pour moi est l'illustration même du sentiment de déclassement, il est en poste aujourd'hui, à l'heure où nous parlons. Le policier que j'ai rencontré à Lons-le-Saunier, qui m'a beaucoup parlé, Ludovic, il est en poste aussi. Sidonie, qui est psychologue chez Pôle emploi, elle est en poste. Ils ont tous voulu leur nom. Ils n'ont pas voulu se cacher. Et je crois savoir pourquoi. C'est parce qu'ils sont très heureux d'avoir parlé. Et en élargissant ça, je me dirais que tout le monde a besoin de parler. Et il y a vraiment... peut-être est-ce propre à la France en ce moment, un malaise de ce point de vue-là, c'est-à-dire que les gens se sentent totalement déconsidérés, comme n'existant pas, parce que personne ne vient recueillir leurs paroles, justement.
Il est interdit de salarier un homme. Démission à la moustache du capitaine. Votre salaire de pièce jaune, votre bulletin d'abonnement à la mienne. comptable et tout le conseil de masturbation. Nous avons le devoir de désobéir à tous ces marchands de bétail, à tous ces DRH et autres grands prêtres en management. Le devoir d'en finir. Vous m'entendez, les galériens? On prend sa main droite, on prend une feuille, un stylo, on écrit. Madame, monsieur, j'ai l'honneur et le plaisir de vous caler ma démission entre les deux parties charnues. Avec mon meilleur souvenir. Démission. Vous êtes pas encore parti. L'économie, c'est un truc qui s'enlaille. Un truc qui nous rabaisse. Un truc qui nous salit. Non, on est plus grand que ça, nous, papy, on a des ailes. Économie, ça veut dire radinerie. Un sou est un sou. Mais nous, on s'en cogne, on va tout voler, on va tout donner comme ça, gratos, ça va vous faire drôle. L'économie, c'est la science de l'avarice. Le royaume des enquêtes. Elle attendra l'économie qu'on lui trouve un putain de sens.
Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans la réalisation de ce livre ?
Le plus difficile, rien. C'est plutôt ce qui se passe là maintenant, c'est-à-dire une fois le livre paru, il ne m'appartient plus, il appartient au public. Il y a aujourd'hui un grand succès, ce livre rencontre ses lecteurs. Donc c'est merveilleux, et en même temps c'est très dense pour moi, parce qu'il faut accompagner ce livre, et aujourd'hui... Un livre n'existait pas si l'auteur ne joue pas son rôle, finalement, dans les médias, en premier lieu télévisuels. Donc il faut aller partout, répondre à toutes les questions, parler du livre, faire en sorte que l'existence de ce livre soit connue d'un public potentiel. Donc ça, je dois jouer le jeu à le fond, je le fais. Et c'est peut-être ça, pour moi, le plus difficile. Mais et en même temps, c'est passionnant et c'est merveilleux. Et d'autant plus que je vais à la rencontre physiquement de mon public. Bon, ça, je l'ai fait pour tous les livres. Mais là, avec ce livre-là, ça prend une résonance particulière puisque je suis en train de retourner dans les civils, bien sûr, qui m'attendaient avec impatience. Donc, je vais dans une librairie ou dans une médiathèque ou dans une salle d'un quartier pour parler du livre, débattre avec le public et signer des livres à ceux qui veulent l'acheter. Donc, là, j'ai pratiquement terminé toutes mes villes. Et je dois dire que dans chaque ville, il y a la presse locale qui vient, bien sûr, qui s'est intéressée au fait que j'écrivais ce livre pendant que j'étais en train de le faire sur le terrain. Ça, c'est très intéressant parce que je n'ai pas cherché la presse locale quand j'y étais sur le terrain, mais la presse locale m'a trouvé. La presse locale était justement également perplexe que je fasse ce livre. Donc la presse locale écrivait un article sur le fait que je faisais ce livre pendant que j'étais sur le terrain. Et maintenant la presse locale écrit sur mon retour dans les villes, mes rencontres avec le public, sur les débats que ça provoque. Et ça, c'est un immense plaisir. Parce qu'un livre comme le mien, qui est ce qu'on appelle un document de la non-fiction, donc pas un roman, eh bien le but, c'est quoi ? Mais le but, c'est qu'il fasse débat. Le but, c'est que il ouvre les yeux les uns et des autres. Et c'est ce que je suis en train de parvenir à faire là. Donc bien sûr, je suis contente. Vous savez, après tout ce que j'ai vécu dans la guerre, c'est rien tout ça. C'est rien, c'est que du plaisir. C'est vraiment que du plaisir. J'ai pris chaque seconde de ce reportage sur le terrain a été un plaisir. Et même à la fin, quand j'avais terminé mes civils, j'avais envie de continuer. J'appelais mon mari, je lui disais, mais et si je faisais une autre ville encore? Alors qu'en fait, j'avais déjà mon quota, j'avais mes civils. Puis je me disais, je me disais, mais avant de partir sur le terrain, je me disais, mais est-ce que dans chaque ville, ça sera intéressant? Et puis je terminais une ville qui avait été tellement intéressante, et je me disais, mon Dieu, est-ce que la prochaine sera aussi intéressante que celle-là? Comment je vais faire si j'ai une ville qui est beaucoup moins intéressante? Est-ce que je ne devrais pas choisir une autre ville? Et finalement, elles étaient toutes fascinantes et intéressantes, mais grâce, évidemment, aux personnages que j'avais trouvés, parce que c'est le fait de les faire vivre et de trouver une narration, un fil conducteur tout au long de mes chapitres, qui, évidemment, fait que ce livre est intéressant.
Est-ce que vous avez envie d'écrire à nouveau sur la France ?
Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis reporter dans l'âme, c'est-à-dire que je m'arrête pas, je m'arrête jamais. Tout m'intéresse. Donc, et d'ailleurs, on m'a déjà, beaucoup de mes lecteurs qui parfois ont des réactions qui remontent jusqu'à moi par Twitter ou et qui sont les meilleurs critiques littéraires, peut-être parfois meilleurs que des grands professionnels. Parfois, les suggestions de livres futurs viennent de mes lecteurs qui me demandent un tome 2. Soit de revenir dans les mêmes villes 2 ans plus tard, soit de choisir d'autres villes un peu équivalentes, mais dans une région voisine, soit d'aller, par exemple, on m'a proposé d'aller dans les dom-tom. Effectivement, c'est une très bonne idée. Si je pouvais faire un livre aujourd'hui sur Mayotte, la Guyane, etc., ça serait absolument formidable. Bien sûr que j'ai envie de le faire, mais un livre, ça se fait pas en 5 minutes. Un livre, c'est un travail gigantesque. Parce que là, je vous ai parlé du travail en amont, et je vous ai parlé du travail en terrain, et je vous ai parlé de la promo qui a lieu en ce moment. Mais je vous ai pas parlé d'une chose, qui est de la solitude de l'écriture. Parce que ça, c'est une phase indispensable. Sans ça, il n'y a pas de livre. Moi, j'aime le terrain, parce que le terrain, je suis pleine de monde, je suis une éponge, comme je vous ai raconté, c'est très dense, c'est éreintant. Mais ensuite, le terrain, il faut bien qu'il s'arrête. Parce que si j'écris pas, si je ne rédige pas ce que j'ai été chercher sur le terrain, ben le livre n'existe pas. Donc il faut l'écrire. Et l'écriture, c'est dur. L'écriture, c'est la solitude totale. Tous ceux qui écrivent le disent. L'écriture, c'est lent. C'est dur de choisir les mots. C'est dur d'être sûr que la phrase que l'on rédige va être comprise dans le sens où on a voulu la rédiger. C'est dur parce que j'écris sur des gens qui sont vivants, qui sont en France, qui sont chacun encore en fonction, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut choisir mes mots. Donc, c'est un travail encore différent. Mais c'est ça que j'aime dans ce métier de journaliste. C'est que c'est un des rares métiers au monde qui, en fait, c'est plusieurs métiers en un, quoi. Et c'est cela qui m'enrichit. Donc, et pour ce livre sur la France, même la période d'écriture qui est d'habitude vraiment dure pour moi, là, elle a été en même temps dure et en même temps un immense plaisir. Parce que pendant que j'étais en train de rédiger ces villes chapitre après chapitre, je voyais naître le livre et je me disais, ça y est, je le tiens, ce livre. Parce que jusqu'au moment où, même quand j'avais quitté les villes et que j'avais encore rien écrit, j'avais juste mes notes. Je ne l'avais pas encore, le livre, il n'existait pas encore. J'avais encore plein de doutes. C'est bien d'avoir des doutes. Moi, j'en ai constamment. J'arrive sur le terrain, j'ai plein de doutes. Je repars du terrain, j'ai plein de doutes. J'ai des doutes jusqu'au moment où j'arrive à l'écriture. Même dans l'écriture, j'ai des doutes. Mais à la fin de la rédaction d'un chapitre, je peux sentir si le chapitre fait sens ou pas. Et si un chapitre, l'un après l'autre, ça forge un livre ou pas. Et là, j'ai vu que ça faisait un livre.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ce qui sent pas logique, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons.
Le livre d'Anne Niva, Dans quelle France on vit, est publié chez Fayard. Pour suivre l'actualité de l'auteur, vous pouvez vous abonner à son fil Twitter qui se fait le relais de toutes les informations qui lui sont liées. Merci à Lucie Bouteloup de La danse des mots et de La puce à l'oreille qui a prêté sa voix au texte tiré du livre d'Anne Niva. L'atelier des médias a été signé cette semaine, comme toutes les semaines, Simon De Creuse, Marie-Stéphanie Servos, Constance Léon, Camille Deloche et Ziane Malouf. Salut à toutes et à tous.
Même s'il passe